Radio Okapi.
Processus électoral en RDC, 19 novembre 2023, c'est une autre étape qui commence pour le scrutin de 2023. C'est le début de la campagne électorale pour les différentes élections. En début de ce journal, Radio Okapi vous propose ce qui se fait durant une campagne électorale et comment se déroule-t-elle. Toujours dans ce journal, vous aurez d'amples détails sur la signature par la partie congolaise de l'accord portant statut de la force de la SADC qui va être déployé dans les jours à venir en République démocratique du Congo. Une signature qui est intervenue lors d'une cérémonie officielle vendredi 17 novembre. Toujours dans sa mission du vivre ensemble, de la pacification de la RDC à l'apaisement et à l'unité, vous suivez en fin de cette édition Monseigneur Marcel Outembi Tapa au sujet des conflits intercommunautaires qui continuent à augmenter le nombre des déplacés dans les trois sites de la ville de Kisangani. Mesdames et messieurs, merci de la confiance que vous ne cessez d'accorder à Radio Okapi, Radio de la Paix, émettant sur diverses fréquences à travers la RDC. Bienvenue et bonsoir à toutes et à tous. La campagne électorale commence ce dimanche 19 novembre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et elle se termine le 18 décembre selon le calendrier électoral. À cet effet, la Commission électorale nationale indépendante a défini vendredi dernier les règles des jeux à l'intention des partis, des regroupements politiques et des candidats indépendants ou leurs délégués. Qu'est-ce que la campagne électorale ? Éléments des réponses dans ce reportage d'Esther Dalafina.
La campagne électorale est une action coordonnée et systématisée à laquelle se livre le candidat en vue d'amener les électeurs à adhérer à leurs idées ou projets de société. Elle se décline en une doctrine politique pour solliciter le vote des électeurs dans le cadre d'une compétition réglementée. Une campagne électorale ressemble à une opération de publicité commerciale en faveur d'un produit de consommation de masse. Au cours d'une campagne électorale, les acteurs politiques mobilisent autant d'énergie que des moyens pour atteindre les objectifs. Le candidat peut recourir aux nouvelles technologies de l'information et de la communication telles que la téléphonie cellulaire, l'internet, site web, blog, réseaux sociaux, messagerie qu'il faut maîtriser au besoin ou contrôler. Le candidat peut également tenir des réunions, des rassemblements politiques, les affiches de campagne, les tracts ou coupures des journaux. L'utilisation des médias à des fins de campagne est autorisée pendant dans cette période. La campagne électorale doit s'exercer dans le respect d'un certain nombre de principes dont l'égalité des candidats, la neutralité de l'administration publique, la légalité et la loyauté des procédés utilisés. La participation à une campagne électorale ne s'improvise pas, elle se prépare et son exercice est bénéfique pour les compétiteurs politiques et leurs équipes de campagne.
Signalons que la campagne électorale pour les candidats présidents de la République, les candidats députés nationaux et provinciaux commence ce dimanche 19 novembre et se termine le 18 décembre 2023 à minuit, tandis que celle pour les candidats conseillers communaux commence le lundi 4 décembre prochain et se termine le 18 décembre à minuit, soit 15 jours. Cette campagne va se dérouler dans les chefs-lieux provinces et dans les 24 communes de la ville-province de Kinshasa. Pendant ce temps, au sud Kivu, l'église catholique de Bukavu appelle à une campagne électorale apaisée et non violente. Message de l'archevêque de Bukavu au cours de la messe dite vendredi 17 novembre à la cathédrale Notre-Dame de la Paix de Bukavu. C'était en faveur de tous les candidats du sud Kivu aux élections de décembre prochain. Le prélat catholique de Bukavu a prié pour la préservation de la patrie et l'unité sociale. Emmanuel Elamejoa Kabedi.
La messe en faveur des candidats du Sud Kivu marque ainsi le début de la période de quelques heures précédant officiellement le lancement de la campagne électorale. La cathédrale Notre-Dame de la Paix de Bukavu était envahie par des dizaines de candidats députés et conseillers municipaux. L'archevêque de Bukavu les a tous appelés à une campagne électorale apaisée, dépourvue de tout message de haine et d'intolérance. Ils doivent placer dans leur cœur l'intérêt supérieur du peuple congolais et la préservation de la patrie et l'unité sociale. Monseigneur François-Xavier Maroy a ainsi exprimé sa préoccupation pour les déplacés de guerre dans l'est de la RDC. L'archevêque de Bukavu rappelle que l'exercice du pouvoir politique doit être guidé par des valeurs morales et un véritable souci pour le bien-être du peuple. Il est crucial que les élections en RDC soient conduites de manière juste et transparente pour assurer la paix et la stabilité dans le pays. Une manière de rappeler à tous les acteurs politiques leur responsabilité envers le peuple congolais. Congolais et de les encourager à agir avec intégrité et compassion envers ceux qu'ils souhaitent représenter. Emmanuel Lamejo Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Promouvoir et consolider la paix pendant le processus électoral, c'est l'objectif de la campagne de sensibilisation et de coaching des jeunes leaders qu'organise le Bureau des Affaires Civiles de la MONUSCO. Du lundi 20 au dimanche 27 novembre, les équipes des Affaires Civiles de la MONUSCO, la CENI et des ONG de la société civile vont sillonner 8 communes de la ville de Kinshasa avec mission d'améliorer la connaissance des jeunes sur le processus électoral et diminuer les risques de violence pendant la période des élections. Joint par René Kapita, Wani Lumago des Affaires Civiles de la MONUSCO revient sur les objectifs de cette campagne.
C'est depuis 2006, donc à chaque procès électoral, la violence s'invite dans les partis politiques et nos communautés, ce qui fait que beaucoup de gens, et surtout dans la société civile, sont en train de craindre la répétition de la même chose pour les élections de 2023 ici. Et c'est pour cela que nous comptons organiser cette activité. Nous visons particulièrement les jeunes qui sont souvent victimes et aussi auteurs de ces actes de violence. Et vous allez comprendre que non seulement la question des élections qui attire la violence, mais nous vivons la violence chaque jour. Et nous voulons à tout prix voir dans quelle mesure nous pouvons prévenir ou du moins réduire les violences pendant le processus électoral actuel. Merci.
Dans la province du Maniema, à la veille de la campagne électorale, la Caritas Développement Kindu promet d'accompagner les journalistes qui seront poursuivis pour avoir dit la vérité. La Caritas Développement Kindu a pris cet engagement ce week-end juste après avoir sensibilisé les hommes et femmes des médias sur les élections inclusives et apaisées. On écoute Abbé Christian Kungwa, coordonnateur du bureau des urgences solidarité partage à la Caritas Développement Kindu au micro de Florence Kizalunga.
Dans un processus électoral, les journalistes ont un rôle très important à jouer, qui est celui d'informer, de former, mais également aussi d'éduquer la population. Quand la population n'est pas éduquée, quand elle n'est pas formée, nous aboutissons à des désordres, à un climat de violence, à un climat d'intolérance. Nous ne voulons plus que les choses que nous avons vécues les années passées puissent se reprendre, mais nous voulons qu'il y ait la paix et cette paix qui va nous conduire à un développement durable. Oui, les journalistes doivent travailler sans peur, puisque la peur, c'est un vice qui caractérise l'homme du Maniema. Et cette peur-là conduit à un fanatisme. Mais pendant le processus électoral, non. Si les journalistes enlèvent la paix, s'ils travaillent dans la vérité, la Caritas Développement Kindu leur promet un accompagnement. Comme structure de l'Église qui n'est pas peur, qu'ils travaillent dans la conformité de la loi. Face à la vérité qu'ils diront, s'ils sont poursuivis, la Caritas Développement Kindu va les accompagner. Et si la Caritas Développement Kindu n'est pas à mesure, nous avons la foi que la Commission épiscopale Justice et Paix est là, la Conférence épiscopale nationale du Congo 5 ans en sigle est là, elle va nous aider.
En Ituri, environ 200 personnes des différentes couches de la population et personnels de la MONUSCO ont pris part ensemble ce samedi à Bounia au Marathon de la Paix. Cette activité est l'avant-dernière d'une série qu'organise depuis mardi dernier la section de l'information publique de la MONUSCO Ituri dans le cadre de la semaine pour des élections zéro violence. Pour le maire de la ville de Bounia qui a donné le coup d'envoi de cette compétition, le but de cette initiative de la MONUSCO est d'éveiller la conscience des habitants de l'Ituri pour qu'ils évitent le piège de la désinformation, de la manipulation et du discours de haine qui pourrait créer les tensions dans la province en cette période électorale. Jean-Claude Lokidile a suivi les marathoniennes et marathoniens et voici son reportage.
C'est à 7h pile que le colonel Boscombouyi, le maire de Bounia, aux côtés du chef du bureau adjoint de la MONUSCO, a lancé le marathon de la paix parti de l'aéroport de Bounia au stade des Pauville, une course remportée par Franck Tavoudry pour les messieurs et Bernadette Badakia chez les dames. Pour Floribert Folo, au-delà de récompenses reçues par les 6 premiers de chaque catégorie arrivés en tête, le plus important est que chacun s'investisse à fond pour le retour d'une paix durable dans cette province.
D'habitude, les gens se limitent à dire voilà, l'État n'a pas réussi à rétablir la paix. Si vous n'avez pas réussi à sensibiliser votre frère qui est en brousse en train de causer la désolation, vous avez aussi échouer ensemble avec l'État. Nous devons nous impliquer pendant cette période électorale pour qu'il y ait la paix.
De ce côté, le maire de la ville de Bounia a demandé aux participants de ne pas tomber dans le piège de certains tireurs de ficelle. Sahel qui risque de le pousser à la violence en distillant des messages de haine. Colonel Bosco Mbuyi.
Nous devons garder ce que nous avons pu faire jusqu'à ces jours. Nous devons éviter les discours de la haine. Les élections vont se passer pendant une journée. Et ce n'est pas dire qu'une journée, nous devons tout détruire.
Cette activité a été suivie dans l'après-midi de deux matchs de football entre les journalistes, femmes et hommes et forces de sécurité. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
Et puis toujours en rapport avec le début de la campagne électorale dans le Kasaï oriental, l'on constate la hausse des prix des billets d'avion à la compagnie africaine d'aviation CAA. Les routings Mbujimayi Kinshasa et Mbujimayi Lubumbashi sont concernés par cette hausse. Une situation qui inquiète plusieurs habitants ainsi que certains acteurs politiques pendant cette période électorale. Des explications avec Esther Dalafina.
Le prix des billets d'avion pour les routings Mbujimayi Kinshasa et vice versa coûte 190 dollars américains. Il y a deux semaines que le même billet s'est vendu à 168 dollars. Pour les routings Mbujimayi Lubumbashi et vice versa, le billet d'avion se vend à 167 dollars américains au lieu de 147 dollars vendus il y a deux semaines. La compagnie africaine d'aviation justifie cette situation dans la lettre de transport aérien par la hausse des prix du carburant. Cependant, quelques observateurs expriment leurs inquiétudes suite à cette hausse qui risque de perturber le bon déroulement de la campagne électorale de certains acteurs politiques. Signalons qu'au-delà de la hausse du prix des billets d'avion, un autre défi à relever reste la disponibilité même des vols pour le Kasaï oriental. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Kapi.
L'actualité ce samedi, c'est aussi cette information où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé ce vendredi 17 novembre la cérémonie officielle de signature par la partie congolaise de l'accord portant statut de la force de la SADC qui va être déployée dans les jours à venir en République démocratique du Congo. C'est ce que rapporte le compte X de la présidence de la République. Cet accord vient matérialiser les recommandations du sommet extraordinaire des chefs d'État et des gouvernements tenus à Luanda en Angola sur la situation dans la partie est de la RDC. D'autres détails avec vous, Blaise Makassi.
Selon le ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, le gouvernement congolais s'engage ainsi par cet accord à mettre à la disposition de cette force de la SADC les facilités diplomatiques liées à ce type d'intervention. Cela matérialise aussi l'engagement de la SADC à déployer sa force. Cet accord définit l'objet de la mission des forces régionales. Celle-ci, ajoute les patrons de la diplomatie congolaise, va être déployée pour appuyer l'armée congolaise à combattre et éradiquer le M23 et d'autres groupes armés qui continuent à perturber la paix et la sécurité en RDC. Rappelons que les chefs d'État de la SADC étaient réunis le 4 novembre à Luanda, en Angola, dans un sommet extraordinaire pour évoquer la situation dans l'est de la RDC depuis la résurgence de la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda. Lors de cette rencontre, il était notamment question de l'envoi d'une force régionale de la SADC pour remplacer celle de l'EAC. Le 10 novembre, au cours du Conseil des ministres, le président Félix-Antoine Tshisekedi avait invité les vice-premiers ministres des Affaires étrangères et de la Défense à tout mettre en œuvre pour aboutir au déploiement effectif de la force de la SADC en RDC.
Autre nouvelle, à Goma, un trafiquant illégal d'animaux sauvages totalement protégés est à nouveau dans les collimateurs de la justice. Un mandat d'amené est émis une fois encore contre Jafar Babou, de qui il s'agit depuis fin octobre 2023 par le parquet général près de la cour d'appel de Goma, révèle l'ONG ACEDH. Pour l'alerte congolaise pour l'environnement et les droits de l'homme, ces démêlés judiciaires remontent au 25 mai 2022, quand le prévenu avait été arrêté pour détention illégale des 50 animaux sauvages totalement protégés qu'il tentait d'exporter du pays. Le secrétaire exécutif de cette ONG demande à la justice d'aller cette fois-ci au bout de ce dossier. Maître Olivier Ndolé le dit au micro de Bernadette Nyangui.
Il y a eu ces 50 espèces qui ont été interceptées et la justice avait fait son travail à l'époque au niveau du parquet de grande instance. Le parquet général a appelé en communication cette affaire-là du fait qu'il y a eu des organisations qui travaillent dans la conservation de la nature, l'ICCN, qui a protesté après avoir constaté qu'il y avait donc des faux documents et des fausses informations quant à ça. Et c'est pour cela que le parquet général a procédé à son arrestation pour donner des explications. Donc nous ne pouvons que saluer cette action judiciaire qui vise à lutter contre le trafic illicite de la faune et flore sauvage parce que, comme vous le savez, la même affaire fait un autre objet d'une affaire au niveau du parquet général de Matete à la suite des sanctions prononcées par l'administration américaine contre trois haut au responsable de l'administration de l'ICSN au niveau de la RDC. Donc, en vertu de notre constitution, le parquet pourra faire son travail en fixant cette affaire pour qu'il y ait quand même une vérité judiciaire dans ces trafics, parce que la faune et la flore sauvage constituent un domaine public de l'État.
Rappelons que ces animaux protégés, notamment 20 singes colobes, 15 oiseaux gris et 15 oiseaux marabouts, avaient été consignés par la justice au sanctuaire Luro au sud Kivu pour leurs soins. Tous nos efforts pour obtenir la réaction du parquet général à ce sujet n'ont rien donné.
Actualité internationale.
Le président sortant du Liberia, George Weah, a concédé vendredi soir sa défaite à l'élection présidentielle de mardi face à l'opposant Joseph Boakai, un scrutin dont l'issue démocratique rompt avec les coups d'État survenus ces derniers mois dans la région. Ce soir, le CDC a perdu l'élection, mais le Liberia a gagné. C'est le temps de l'élégance dans la défaite, a déclaré M. Weah, ancienne gloire du foot élu en 2017 dans un discours sur la radio publique. Les résultats publiés vendredi par la commission électorale après des votes dans plus de 99% des bureaux donnaient 50,89% à M. Boakai, 78 ans, et 49,11% à Weah. La Cour suprême au Sénégal a cassé vendredi un jugement qui remettait l'opposant emprisonné Ousmane Sonko dans la course à la présidentielle de février 2024, précisant que l'affaire allait être réjugée, a ainsi annoncé son président. La Cour casse et annule la décision du tribunal de Ziguinchor du 12 octobre et renvoie l'affaire au tribunal hors classe de Dakar pour qu'elle soit réjugée, a-t-il déclaré. Le mois dernier, le tribunal de Ziguinchor, la ville dont Sonko est le maire depuis 2022, avait annulé la radiation de l'opposant des listes électorales. L'État avait fait appel de cette décision.
L'invité.
Dans la province de la Tchopo, le nombre des déplacés du conflit intercommunautaire continue à augmenter dans les trois sites de leur hébergement dans la ville de Kisangani. Leur nombre actuel serait de plus ou moins 30 000 personnes. Comment expliquer cette augmentation quasi quotidienne de leur nombre et comment la population a-t-elle réagi à l'appel à la solidarité de Monseigneur l'archevêque de Kisangani, appel lancé dimanche dernier? Monseigneur Marcel Outembi Tapa s'entretient avec Jacques Moukonkole.
Monseigneur Marcel Outembi, bonjour.
Bonjour.
Dimanche dernier, vous avez lancé un appel à la solidarité internationale et internationale en faveur des déplacés. Comment cet appel a été reçu par la population?
Effectivement, nous avons lancé un appel à solidarité et à l'endroit de déplacés du conflit intercommunautaire qui sévit dans une partie de mon archidiocèse, plus particulièrement dans les paroisses Sainte-Marthe et paroisses Saint-Sacrement de Lubunga. Cette situation a provoqué mort d'homme et une vague de déplacés. Et cela intervient pratiquement au moment où la population n'a pas beaucoup de vivres à cause de l'état d'enclavement de la ville de Kisangani. Néanmoins, à la suite de cet appel, nos paroissiens ont répondu généreusement en mettant à la disposition de la Caritas quelques moyens en vivres et en non-vivres avec un peu d'argent. Et la Caritas s'est appelée à mettre ses biens à la disposition des trois sites de déplacés que connaît notre circonscription.
Et comment se présentent les statistiques à la date d'aujourd'hui, Monseigneur?
Aujourd'hui, nous, on estime à près de 30 000 le nombre de déplacés. Par exemple, au niveau des déplacés de Konga-Konga dans la commune de Kisangani, il y a plus de 8 000 déplacés. Et dans la commune de Makiso, autour de la paroisse Saint-Gabriel, à Simisimi environ, il y a autour de 7 à 8 000. Et dans la commune de Lubunga, plus de 4 000. Il s'agit là de déplacés identifiés, identifiables, qui restent dans les sites. Par ailleurs, il s'y de mentionner la présence de déplacés dans des familles d'accueil et qui ne sont pas dans les statistiques que nous donnons.
Compte tenu de l'ampleur de ces événements et de la psychose qui s'est créée, j'imagine que les déplacés continuent à affluer dans les sites.
Exactement, le nombre augmente au jour le jour. Alors ça nous inquiète et ces déplacés viennent chaque jour parce que les atrocités n'ont pas cessé. Les hostilités continuent, peut-être à petit coup, mais cela provoque une psychose dans les chefs de population, surtout de ceux-là qui ont préféré rester dans leur village respectif. Alors ces gens qui résistaient à pouvoir rester dans leur village sont obligés finalement à traverser la rive droite du fleuve Congo pour se retrouver soit à Konga-Konga et soit à Simisimi et ses environs.
Et là, ça complique certainement l'assistance aux déplacés qui sont déjà sur place parce que les besoins seront difficiles à combler, à satisfaire, Monseigneur.
Dans nos prévisions, nous veillons à ce que les trois sites soient touchés par notre solidarité. La Caritas Kisangani, et à travers son personnel, son organisation, est en mesure de toucher les trois sites. Bien sûr, comme nous pouvons le constater, les besoins augmentent. Plus les déplacés arrivent dans les sites, plus il faut encore réunir les moyens pour subvenir à leurs besoins. Voilà pourquoi nous lançons un appel vraiment vibrant et pathétique, non seulement à l'endroit des non-fidèles dans leurs paroisses respectives, mais aussi à l'endroit des organisations non gouvernementales, les institutions publiques comme le gouvernement provincial de la Tchopo, et l'Assemblée provinciale, la mairie et d'autres organisations que nous pouvons trouver sur place, que tout le monde puisse mettre la main dans la pâte pour réunir les moyens nécessaires à partager avec les déplacés. Normalement, l'État congolais devrait agir au plus haut point. Mais depuis que nous connaissons cette tragédie, ce drame dans la province de la Tchopo, nous n'avons jamais reçu une assistance, une aide conséquente à l'endroit des déplacés qui continuent à croupir dans leur misère. Donc je lance un appel comme compatriote, mais surtout comme pasteur, à l'endroit de ceux qui nous gouvernent pour qu'ils soient sensibles aux besoins de ces déplacés de Kisangani.
Assister ces déplacés, c'est bien, mais les aider à rentrer dans leur milieu, ce serait encore mieux. Que faudra-t-il faire, Monseigneur, pour que ces déplacés rentrent chez eux et vivent paisiblement?
Pour rentrer chez eux, il faut préalablement rétablir la sécurité. Et la sécurité relève du ressort régalier du gouvernement de la République démocratique du Congo au niveau central et au niveau provincial.
Monseigneur l'archevêque, merci.
Je vous remercie.
Vous pouvez suivre l'intégralité de cette interview sur notre site internet et dans d'autres plateformes digitales de la radio Okapi. Fidèles auditeurs, ça en est ainsi fini avec cette édition du journal sur la fréquence de la paix. Continuez à vous informer sur toutes nos plateformes numériques.